Bonsoir. Avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir le président Joseph Kabila séjourne depuis mercredi dans le territoire de Beni, où des attaques d'hommes armés, dont des présumés rebelles ougandais des ADF, ont tué plus de 80 civils en l'espace d'un mois, selon la société civile. Dans notre deuxième thème, nous parlerons des dégâts signalés à travers les pays suite aux pluies qui se sont abattues ces derniers jours. À Calais, au sud Kivu par exemple, plus d'une cinquantaine de morts et de disparus ont été enregistrés. À Kinshasa, plus d'une centaine de maisons sont menacées d'effondrement. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Diana Di Kupa, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Diana.
Bonsoir Kelly.
Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît aussi à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadedanga.
Bonsoir Concert, bonsoir auditeur de la radio de la paix.
Et Dimanche Kamate, journaliste à la radio communautaire Moto Oicha, qui émet depuis Beni au Nord Kivu. Bonsoir Dimanche.
Oui, bonsoir cher concert Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Merci de nous suivre partenaire d'essai sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite analyse les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Berilou Tchaka.
Bonsoir à tous. Cette semaine s'est appesantie sur la visite du président de la République à Beni et les dégâts causés par la pluie au sud Kivu. À propos de la visite de Joseph Kabila à Beni, la plupart des journaux affirment que c'est une visite de réconfort, à l'image du journal Le Potentiel qui affirmait jeudi que le président de la République était très attendu dans ce territoire où plus de 80 personnes ont été massacrées en l'espace d'un mois par des éléments inconnus présentés comme proches des rebelles ougandais de l'ADF. La référence Plus indiquait pour sa part que Joseph Kabila séjournait à Beni pour constater la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire. Selon la consoeur, Joseph Kabila devrait répondre aux nombreuses critiques et être en mesure de constater la dégradation de la sécurité dans la zone et l'ampleur du chantier 9 mois après le début d'une offensive militaire contre la rébellion ougandaise de l'ADF. C'est pratiquement dans la même optique que Forum des As note également que la population de Beni réclame une sécurisation totale à travers des mesures fermes pour endiguer définitivement les phénomènes ADF. Dans un document remis au président de la République, la société civile demande au chef de l'État de prendre à bras le corps la sécurisation de Beni, d'où le titre du confrère Forum des As donc, Joseph Kabila face aux attentes de la population. Le palmarès indique pour sa part que Joseph Kabila ne s'est jamais exprimé sur les tueries de Beni, et ce qui fait dire à la tempête des tropiques que le président de la République tente de convaincre la population de sa volonté. Joseph Kabila, explique la consoeur, est à Beni pour consoler les familles éplorées avec un message de réconfort, un soutien matériel qui ne manquera pas, prédit-elle. Parlons à présent des dégâts causés par la pluie qui s'est abattue cette semaine sur la ville de Bukavu, où l'on compte plus d'une centaine de morts et des édifices écroulés. La référence plus rapporte à cet fait que l'opposition dénonce le silence du gouvernement face au drame de Calais. Et ce, malgré la cinquantaine des corps sans vie extraits dans la boue, plus de 200 habitants portés disparus et près de 800 habitations écroulées. Pour sa part, l'observateur est triste de constater que des événements du passé révèlent que Kalehe est un des territoires où le risque des catastrophes naturelles demeure élevé. Même son de cloche que sonne Le Potentiel qui affirme que la province du Sud Kivu est de façon cyclique affectée par les catastrophes naturelles. En 2013, indique le confrère, plus de 40 000 personnes ont été affectées, dont 10 morts et 16 000 personnes déplacées qui ont été enregistrés. Les territoires les plus touchés étaient Fizi, Idjwi, Kalehe, Uvira et Walungu.
Merci Berry Franklin Louchaka. Autre sujet à la une cette semaine, c'est ce rapport Doing Business. La Banque mondiale a publié mercredi 29 octobre son rapport Doing Business 2015 qui classe 189 pays du monde suivant la facilité d'y faire les affaires. Si la RDC maintient son rang de l'année dernière, c'est-à-dire la 184e place, l'institution de Bretton Woods note que le pays figure parmi les 10 économies sur les 189 couvertes par Doing Business qui ont le plus amélioré leur environnement des affaires au cours de l'année. Joël Kadedanga, un mot sur ce rapport de Doing Business qui salue quand même l'amélioration du climat des affaires en RDC.
Oui, le climat des affaires pour les grandes affaires, notamment les grandes entreprises, les multinationales, dans les secteurs pétroliers et miniers, mais pas pour les petits commerces, pas pour les petites affaires, pas pour les petites boutiques, où on continue à faire sentir la pesanteur, n'est-ce pas, de taxes, de tracasseries de tous ordres. Il suffit d'ouvrir une petite boutique pour voir tous les services tomber sur vous. C'est dans ce cadre-là que vous n'avez pas vu, on est parmi les 10 derniers des pays couverts par Doing Business. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas tellement d'amélioration au-delà de toutes les publicités faites sur les médias.
Diana Dikoupa, est-ce que vous êtes d'accord avec Joël lorsqu'il dit c'est vrai que la RDC maintient sa place, il n'y a pas du tout une amélioration palpable, surtout pour les petits commerces?
On dit que l'économie, ce ne sont pas des incantations du genre auquel on est habitué, dont mon collègue de droite est peut-être champion. Vous savez que l'économie est une science exacte. Si Doing Business avait dit que la République démocratique du Congo a reculé, ça serait la chanson. Maintenant qu'il constate que le pays a gardé sa place et a fait des efforts d'amélioration, on a toujours dit que en ce qui concerne l'économie, c'est le problème d'abord de rassurer la base. Nous sortons d'un pays où il n'y avait pratiquement aucun ordre sur le plan économique, chacun faisait ce qu'il faisait. Vous vous souviendrez d'une époque où il y avait quelqu'un pouvait importer aussi de l'argent. Chacun était l'hôtel de monnaie. Quand l'ordre revient, petit à petit, c'est comme la fièvre, hein, ça devient une grosse fièvre. Et lorsqu'elle diminue, même pour le malade a un état stable, c'est que c'est un malade qui rassure. Donc le Congo est effectivement debout et il rassure.
Comme l'a dit le chef de l'État, le Congo est debout. Alors un autre sujet, c'est la finale ce samedi en Algérie du match retour dans le cadre de la Champions League de la CAF entre l'ASV, club de la RDC et l'Entente Sportive d'Algérie. Les dauphins de la RDC ont-ils la chance, Joël Kadedanga, de remporter cette coupe, sachant qu'ils ont fait un match nul au match aller?
Oui, ils ont la chance parce qu'au départ, la mobilisation avait été, comme je l'avais lu dans le journal La Colombe, surdimensionnée. Ça avait été, on avait trop demandé aux joueurs, on leur avait accordé toutes les gloires possibles et que dans leur tête c'était 3-0 et comme cela a été déjà chanté, toute la ville était mobilisée. Mais je crois que le score de nul à Kinshasa a permis au moins à l'équipe maintenant d'évaluer ses capacités et d'évaluer l'adversaire en face pour qu'il puisse aller là-bas pour se battre. Parce que la coupe, on la gagne, on ne la joue pas. Donc ils doivent utiliser tous leurs moyens possibles pour gagner cette coupe. Je crois en tant que Congolais que la chance reste encore du côté des Verts Clubs.
Diana Guikoupa, votre pronostic pour ce match?
Oui, vous savez, pour ce match-là, je me dis que tout peut arriver, mais il y a l'équipe congolaise, la SV Club, a 30% de chances de gagner, compte tenu des éléments objectif à ma présence. D'abord, le score de 2-2 ici à Kinshasa. Donc, ce qui veut dire qu'arrivé en Algérie, le club devra ouvrir les jeux pour marquer ne fût-ce qu'un but. Parce qu'il ne marque pas, on sort 0-0, il perd la coupe. Donc, c'est le club qui sera obligé de faire les jeux. Et quand il va s'ouvrir, tel que j'ai vu cette équipe avec des contre-attaques fulgurantes, donc c'est un danger pour le club. Il y a aussi, cette équipe a joué à Kinshasa à l'aise. On l'a bien accueilli dans un hôtel calme, mais le club va jouer contre toute la ville de Sétif. Donc, je ne vois pas le club qui va loger dans un hôtel où on va les laisser tranquilles. On a vu ce qu'ils ont fait à Mazembe, ce qui n'était qu'en demi-finale. Donc, le club va dans le chaudron.
Rien n'est gagné d'avance.
Rien n'est gagné d'avance, mais il suffirait que la chance soit avec eux, qu'il marque un seul but et qu'il n'en encaisse pas un seul, et là, il pourrait gagner.
Dimanche, Kamate, journaliste à la radio communautaire Moto Icha, qui met depuis Beni au Nord Kivu. Alors, à Beni, est-ce qu'on attend aussi cette finale?
Oui, cher consoeur Kelly, vous savez, toute la population congolaise est contente de constater que son équipe, ses frères, parviennent à remporter la victoire. Et donc, pour nous, nous sommes en train de prier beaucoup comme le font tous les chrétiens. Vita Club, c'est notre formation. Alors, nous serons plus contents ici à l'est du pays d'apprendre que la victoire nous a été rapportée par cette formation. Et donc, les autorités aussi doivent s'impliquer davantage parce que l'espoir ne revient pas seulement au président qui supporte ces équipes, ça revient aussi à tout le monde et ça fait la fierté de la nation. Et donc, tout le monde doit s'impliquer pour que nous puissions remporter la victoire, car elle ne sera pas seulement la victoire des Vita Club, mais la victoire de tout le monde et de tous les Congolais.
Merci. Dimanche Kamate, premier terme de ce soir. Joseph Kabila, depuis mercredi à Beniville, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par le ministre de l'Intérieur, le gouverneur du Nord Kivu et les militants des partis politique de la majorité présidentielle. D'après les sources gouvernementales, Joseph Kabila passera quelques jours à Beni pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans la zone. Martial Papi Moukeba pour les détails.
C'est aux environs de 13h45, heure locale, que l'avion présidentiel s'est posé à l'aéroport de Mavivi. Ici, Joseph Kabila est accueilli par les ministres de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires Coutumières, ainsi que les gouverneurs du Nord Kivu. Richard Mouyej et Julien Paluku sont à Beni depuis plus d'une semaine pour faire face à la résurgence des massacres des civils dans la zone. Après son arrivée à Beni, Joseph Kabila s'est directement dirigé à sa résidence située au quartier Boutanouka, en commune de Béou. Selon les sources gouvernementales, le chef de l'État doit passer quelques jours à Beni. C'est pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans la zone. Depuis quelques jours, Beniville et Beni Territoire font face à la résurgence des massacres des civils par des hommes armés dont le présumé rebelle ougandais de l'ADF. Selon la société civile, environ 84 civils ont été tués dans l'intervalle des mois. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Diana Guy Koupa, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombaine, quotidien qui part à Kinshasa. Quel sens donner à cette visite du chef de l'État à Beni plus de 10 jours après les massacres des civils?
Bon, la première chose, l'avantage qu'il y a à ce voyage, c'est que lorsque le chef de l'État arrive sur place, cela démontre, contrairement à certains bruits, que et Beni n'est pas invivable. Ce n'est pas un coin fantôme où à chaque coin de la rue on risque de se faire tuer et il y a un ADF ou bien un terroriste à chaque coin de la rue. Donc que le chef de l'État y arrive et qu'il y reste pendant un certain temps, cela essaie un peu de rassurer la République démocratique du Congo que le bruit qui nous parvienne selon lequel Beni serait invivable ne sont pas totalement vrais. Cela n'empêche qu'on reconnaisse qu'il y a cette insécurité, et comme on en connaît dans beaucoup de coins du pays, même dans les pays les plus sécurisés. Malheureusement, c'est une situation à laquelle la RDC n'est pas habituée, c'est-à-dire ce genre de terrorisme, des gens qui sortent de la forêt, tuent et se retirent. Bon, on en a l'habitude à l'Est, mais il faudra maintenant que l'armée nationale s'adapte à cette sorte de guerre. Et on a voulu combattre de façon classique les ADF Nalu, ils ont démontré qu'ils ont une autre paire de manches, alors il faudrait que maintenant qu'on leur oppose la méthode terroriste pour lutter contre le terrorisme.
Alors il y a une couche de la population qui reproche quand même au chef de l'État le fait de se rendre à Beni en retard.
Non, le chef de l'État ne se rend pas. Le chef de l'État n'est pas le commandant des troupes là-bas. Il est certes commandant en chef, mais il y va lorsque la situation, les autorités locales, les autorités militaires lui donnent le rapport que monsieur le chef de l'État, la situation est calme, vous pouvez venir. Ce n'est pas la population qui reproche, mais une certaine classe politique. Le chef de l'État, il serait pendant qu'on tuait, lui était dans cette ville, on dirait, mais il était là, mais on a tué quand même. Mais on a tué en son absence, et il fallait que le président soit comme le policier qui arrive à la première heure. Moi, je pense que ça, ce sont des débats politiciens qui n'ont aucun sens. L'essentiel est que le chef de l'État arrive et qu'il résolve le problème. Donc, je pense que ce sont des solutions globales qu'il nous faut, et comme on a pleuré hier avec le M23 qu'on pensait était invincible, mais aujourd'hui, j'ai l'assurance que les ADF Nalu seront vaincus un jour.
Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa, visite de réconfort, comme l'a dit Diana.
Bon, une visite qui vient en retard. Vous l'avez dit qu'une certaine opinion l'a déjà dit. Il ne faudrait pas que lorsqu'il y a des catastrophes, vous allez voir aux États-Unis d'Amérique, en France comme partout ailleurs, pour ne pas citer ces pays-là, lorsque un seul Français meurt, vous voyez le chef de l'État arrêter, suspendre tout son agenda, tout son programme pour voler au secours, pour aller au chevet de ceux qui ont perdu les leurs. Tout simplement, leur présence réconforte, la présence du père, la présence du papa réconforte un peu le moral de ceux qui sont là. Mais ici, on laisse toutes les fois qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de la victoire sur le M23, on a laissé la vedette à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. C'est lui qui a été le premier à être là. Et le chef y est allé 2 mois plus tard. Et après, aujourd'hui, c'est encore un peu quelques jours après, alors que celui-là, au lendemain directement, il avait été. Pourtant, les moyens, le gouvernement a tous les moyens possibles pour que le chef aille au chevet, qu'est-ce que j'ai dit, de ceux qui ont perdu les leurs. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui citent toujours la première source, la cible ADF Nalu. On a tué Mamadou Ndala. On nous a fait croire tous, un mensonge a circulé et porté même par le gouvernement de la RDC qu'il s'agissait d'une embuscade placée par les ADF Nalu. Et pourquoi on doit toujours mentir à tout le monde? Je ne crois pas.
Et donc vous estimez que ce ne sont pas les ADF qui sont responsables de ces massacres à Denis?
Ça doit être une manipulation médiatique qui veut nous faire toujours distraire pendant que ceux qui perpètrent ces massacres sont connus et on le fait à dessein. Ça, ce n'est pas, on ne doit pas toujours mettre les ADF Nalu. Et ça doit être une manipulation politicienne qui a quelque chose de caché derrière. Pourquoi on prétend toujours les ADF Nalu, alors que ça doit être autre chose dans sur ce terrain-ci? Et puis, il n'y a pas que les ADF Nalu qui agissent sur ce territoire. Mamadou est mort, on a dit les ADF Nalu. Et dernièrement, celui qui maîtrisait, qui avait déjà le plan d'élimination de tous ces groupes rebelles, on l'a tué. Et le général qui était son chef est mort dans des circonstances mystérieuses. Je voudrais que nous ayons un gouvernement beaucoup plus responsable, qui assume les responsabilités, parce que vous voyez plus de 80 morts. Pas même un deuil national, pas même une responsabilité dans le chef du gouvernement, où vous voyez un ministre soit de l'intérieur, soit de la défense, rendre le tablier comme cela a été fait au Mali, où lorsqu'il y a des morts, il faut quand même qu'il y ait des responsabilités.
Mais peut-être qu'on va décréter le deuil national après l'enquête qui est en cours, puisque le ministre a dit qu'il y avait une enquête en cours, le ministre de l'Intérieur.
Très chers consoeurs, nous devrions avoir pitié de ces gens. Nous devrions avoir pitié de nos sœurs et frères de Béni, de l'Est, de la RDC. Et avoir pitié, c'est qu'il y ait des responsabilités établies. On monte les jeunes gens contre la MONUSCO comme si toute la sécurité de la RDC devrait être mise sur le dos de la MONUSCO.
Kadedanga. Dimanche, Kamate, vous intervenez depuis Béni au Nord Kivu. Vous êtes journaliste à la radio communautaire Moto Hicha. Alors dites-nous, quelle est l'ambiance dans la ville avec cette présence du chef de l'État?
Madame Ekeli, Kinshasa doit s'expliquer, parce que plus de 80 personnes égorgées dans un intervalle d'un mois, ce n'est pas normal. Par rapport à l'arrivée du chef de l'État en province du Nord Kivu, particulièrement à Beni, cela constitue un fil d'amour en théorie que le chef de l'État manifeste à l'égard de toute cette population du territoire de Beni, ainsi que celle de la ville longtemps merci. Mais en pratique, cette population reste toujours victime de l'insécurité. Peut-être les gens qui sont à Kinshasa sont en train de suivre les affaires, comment ils sont en train de se passer à une distance de 2000 km. Mais nous qui sommes ici, hier j'étais à Erindeti, j'étais à Maïmoya, je suis pour le moment à Ouïta, à la ville de Beni. Mais ce sont des points qui sont invivants, invivables. Les confrères qui a dit, bon, comme le chef de l'État a été là-bas, alors ça signifie que les gens sont en train de vivre. Est-ce que vous pensez que c'est normal de trouver un enfant au négoge sauvante? Tous les intestins qui se trouvent là-bas se retrouvent à l'extérieur. Une maman enceinte, une femme enceinte, On l'égorge, un papa vieux, on enlève cet œil-là. Et donc vous sentez que la population est en train de subir. C'est une souffrance que Jésus, d'ailleurs, n'avait même pas vécu sur la croix. Et ce n'est pas aussi normal. Parce qu'on ne peut pas se dire autorité alors que les gens qu'on est censé protéger sont en train de mourir tous les jours. Si on veut diriger un peuple, il faut qu'on protège cette population-là. Nous l'avions suivi, et ça nous a surpris. Lorsqu'il y a eu massacre des gens en Gadi, le gouverneur de la province Nord Kivu a haussé les taux, je vais supporter tous les deuils. Est-ce que ce sont les gens de Gadi qu'on a égorgés seuls? On n'a pas égorgé en Gadi seulement. Il y a les gens des Maniki qui sont ici à Ouïta, qui ont été égorgés. Il y a les gens de Kisiki qui ont été égorgés. Il y a les gens de Maïmoua qui ont été égorgés. D'ailleurs, un garçon là-bas avait été brûlé, en tout cas brûlé, calciné comme un singe dans une maison où les ADF, les prisonniers ADF, avaient déjà versé de l'essence. Au niveau de Ringuette, il y a plus de 20 personnes qui ont été égorgées. Et donc, ces tableaux sombres laissent en fait que l'on puisse se poser la question si la partie est du pays est encore considérée par Kinshasa. Et moi, je vais dire, parce que c'est pour nous aussi une occasion de nous adresser aux chefs de l'État, les chefs de l'État et le père de la nation. Il est le garant de la nation et c'est à lui que nous devons attendre beaucoup de choses.
Merci Dimanche Kamate, on vous redonne la parole tout à l'heure. Diana Gikupa, vous avez suivi notre ami qui est sur place. Il s'est dit déçu par vos propos lorsque vous dites que Beni n'est pas un coin invivable. Le fait que le chef de l'État s'y soit rendu, ça veut dire qu'on peut vivre tranquillement dans cette ville de Beni.
Ah, mais je ne sais pas, vous savez, je vais essayer de parler calmement, sans passion, comme je voudrais. Mais je me demande si aujourd'hui, vous allez à Beni, il n'y a plus personne. Et donc, le chef de l'État est arrivé, il y a eu des partis politiques, il y a qui sont sortis pour l'accueillir. Mais pour nous, ça nous rassure quand même, alors qu'on pensait que Beni, il n'y avait plus personne. Les gens ont fui à chaque coin de la rue, ont tué. Mais c'est lorsqu'on dit... Que la
situation... Mais la sécurité est quand même grandissante dans cette ville-là.
Tu sais que nous avons un moment vécu avec vous, l'insécurité à Kinshasa ici. C'est impossible de sortir à 18h, à 20h. Hein, avec les colonnes et consorts. Il y a beaucoup de coins de la République qui connaissent des situations d'insécurité. Mais souvent, quand vous n'êtes pas là, vous n'apprenez qu'aux par les radios, vous. Vous donnez une autre image. Les chefs de l'État n'existeraient pas rendus. On s'est dit non, c'est un vivant. D'ailleurs, le fait que déjà les ministres de l'Intérieur y aient pendant plusieurs jours, quelques semaines, je pense que
qui
c'est
qui a annoncé
déjà...
même le renforcement de
tout
la police.
À fait. Et cela rassure qu'il y a quand même la vie. Il n'est pas question de mettre de la passion pour moi. Mais mes chers amis, vous pensez sincèrement, en tant qu'intellectuel, que... Aujourd'hui, il y a l'insécurité à Beni. On prend tout ce que nous avons comme force, on met à Beni. Mais demain, ça sera, je ne sais pas, le Bakata Katanga. Hein? Et, quoi, comme on dit, le Bakata Katanga là-bas. Ils vont attaquer quelque part. Nous avons l'insécurité à travers le pays et il faut...
Ça veut dire que le pays n'est pas tout à fait debout.
Mais écoutez, à ce qui concerne l'Est, on savait que la grande rébellion hier, c'était le M23 qui a été vaincu. Au moment où on envoie l'équipe qui avait défait le M23 pour aller commencer le combat contre les ADF Nalu, et on constate d'abord qu'on commence par tuer le commandant qu'on avait envoyé là-bas. Et que tout juste après sa mort, il y a une espèce de massacre. Et je me dis, peut-être aussi en allant pas totalement dans le sens de Kadhafi, mais pour dire que j'y vois aussi une main politique. Je peux y voir une main politique, il ne faut pas tout simplement voir, ah non, il y a des complicités d'armes. Mes chers amis, et parfois même on pose la question, à qui profitent les crimes? Mais il ne faut pas, combien de politiciens de ce coin là-bas qui aimeraient qu'il y ait cette insécurité pour qu'ils puissent faire... Et je le dis aux politiciens de tous les Congolais, ceux de Beni et de partout ailleurs, que ça ne sert à rien de chercher à faire sa fortune politique sur les dos, sur les sangs des Congolais. Il suffit de favoriser des tueries pour qu'on dise non, vraiment ici c'est impossible, Kabila doit partir parce que ici il n'assure pas la sécurité. La sécurité c'est l'affaire de tout le monde, des populations, de tout le monde, des politiciens. Mais si des politiciens dans un coin ont décidé, c'est ce que je constate, qu'au niveau des Beni, il y a des gens qui ont décidé que leur arme politique, leur idéologie, que ce soit ce massacre là-bas pour se faire un discours politique. Ça m'étonnerait. Et d'ailleurs, tout ce qu'il y a eu comme marche et consort, c'était ambigu. Nous, à la Colombe, nous sommes dit, ce marche, c'est, que ce soit contre la MONUSCO, contre le gouvernement, ça sent.
Il y a une main noire derrière tout ça.
Il y a une main noire déjà.
On a suivi le président du RCD quand même, Moussa Niamoussi sur RFI, qui a dit que les autorités provinciales étaient au courant de ces massacres parce qu'il y avait des tracts qui ont circulé dans la ville, mais on n'a pas pris de disposition par rapport à ça.
Qui a lancé ces tracts? Lui, comment il a su? Il est où? Lui, Moussa Niamoussi. Pourquoi il a abandonné son poste de député? Pourquoi? Est-ce que cela, on l'a, la population de là élu pour qu'il aille être... On ne sait pas s'il n'est pas dans la forêt où se trouvent les ADF Nalou. Et comment lui, qui n'est pas là, il a su qu'il y a eu des tracts? Comment il le sait? Moi, je pense qu'on doit pousser les enquêtes pour trouver qu'il y a des politiciens véreux de ce coin là-bas qui sont en train de galvaniser la population contre la monsieur, contre le gouvernement, pour se faire une certaine fortune politique. Moi, je pense que c'est dangereux. On ne doit pas continuer à jouer comme ça avec la sécurité.
Joël Kadedang, on aurait pu éviter cette situation?
Tout à fait. On aurait pu éviter cette situation parce que pourquoi nous avons des services de renseignement? Pourquoi nous avons des services de renseignement militaires et des services de renseignement civils? Nous avons l'ANER. Ce n'est pas pour aller traquer des gens qui volent les poules. Ce n'est pas pour traquer des gens qui volent les cacahuètes dans les marchés. Nous avons l'ANER, nous avons la DEMIAP. C'est pour anticiper des situations comme celle-ci. Et lorsque vous voyez, on peut dire non, je parle calmement, sans passion. C'est quand on ne veut pas se faire accepter comme Congolais. Quand on est Congolais et que vous sentez que la nuit approche, vous êtes dans une zone d'insécurité. Vous voyez la nuit approcher. Déjà, vos cœurs tremblent. Vous entrez tous dans vos maisons et vous ne savez pas quand est-ce que vous pourriez être surpris pour qu'on vienne vous tuer. Et quand vous avez déjà vécu dans un environnement comme celui-là, on ne parlerait pas comme on dit, non, c'est un coin invivable. Invivable pour ceux qui y vont. Pourquoi on a souhaité que le chef se déplace le premier? Parce que quand le chef se déplace, déjà, il a sa propre sécurité, constitue une force de dissuasion sur ces massacreurs. Des deux, on ne peut pas dire non, il y a des forces d'intervention spéciales qu'on peut engager dans une zone d'opération. On dit, cette zone-là est très sensible. On prend par exemple une division, par exemple la division présidentielle ici, qui est bien équipée, qui est bien formée. On l'envoie à Beni pour sécuriser la population. On ne demande pas que toute l'armée, toutes les forces de FARDC quittent la RDC pour se cantonner seulement à Beni. Je crois qu'il y a une main noire et moi... Je ne dirai pas tout au long de cette émission, jamais les ADF Nalou, parce que les méthodes, nous les connaissons, nous les avons vécues en 90, en 94 au Rwanda. Alors qu'on ne nous trompe pas, que le gouvernement prenne les responsabilités pour nous faire éviter ce genre de choses et que l'on établisse les responsabilités. J'en appelle aux députés de ce coin-là, c'est là que je vais chuter. Les députés sont dans la révision constitutionnelle, dans la non-révision constitutionnelle, au lieu de s'intéresser aux questions essentielles. C'est maintenant que je pouvais entendre une motion d'interpellation à l'égard du ministre Louba Tambol. C'est maintenant que je pouvais entendre une motion à l'égard du ministre Mouyej. C'est maintenant que je pouvais entendre ça. Mais vous les verrez un peu seulement derrière leurs émoluments.
Merci Joël Kadedanga, Dimanche Kamate. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour éviter ces genres de situations à la longue?
Oui, cher confrère, je voudrais d'abord placer mon axe à propos de la récente déclaration de Moussa Niamoussi. Il y a des gens qui sont en train d'écouter très mal cette déclaration. Mais je vais dire, Moussa Niamoussi n'est pas une personnalité nouvelle dans ce pays. Moussa Niamoussi, pendant un temps, il s'est allié, n'est-ce pas, à Kabila. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on peut écouter mal ces déclarations? C'est un fils de la RDC. Et donc, ce qu'il a déclaré, ça prouve aussi à suffisance que certains gens ne veulent pas entendre la vérité. Quand il dit FADC, voyez bien, c'est comme si dans cette armée nationale, il peut y avoir aussi certaines personnes de mauvaise foi. Est-ce que c'est faux? La société civile d'ailleurs est en train de les dire ici. Il y a les députés parmi lesquels je ne vais pas les citer. Mais ils sont là, ils sont en train de dénoncer. Ça ne va pas. FADC, est-ce que vous revendiquez vos liens normalement? Parmi vous n'est-il pas des gens qui jouent la politique à double vitesse? C'est-à-dire servir l'ennemi et à la fois servir aussi la nation.
Alors quelle serait la solution?
La stratégie ou les pistes de solution que je vais proposer, il faut que nous, population, nous puissions apporter, nous puissions présenter aussi notre soutien à l'armée nationale. nationale, parce qu'il n'en faut pas deux, mais plutôt une. Les FRDC, ce qui constitue l'armée nationale. Nous devons nous unir à cette armée-là pour bouter dehors l'ennemi. Si nous constatons que, quelque part, il y a des faits qui ne sont pas bons, il faut que nous puissions signaler les services de renseignement et que les services de renseignement ne puissent pas s'attaquer à cette population qui est venue les former, mais plutôt collaborer aussi ensemble avec la population. En deuxième position, les autorités politiques du pays doivent aussi savoir que l'est du pays constitue une partie aussi de la République démocratique du Congo. Et donc, la sécurité de l'est, particulièrement de la ville ainsi que du territoire, peut favoriser la sécurité de toute la République démocratique du Congo.
Merci, Dimanche Kamate. Deuxième et dernier terme de ce soir. Ces derniers jours, la pluie s'est abattue sur plusieurs villes de la RDC, notamment à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Bukavu. Cependant, les conséquences se sont plus fait sentir dans les villes de Bukavu et Kinshasa, où la pluie a fait des dégâts, comme nous l'explique Berry Franklin Luchaka.
Les pluies torrentielles qui se sont abattues ces jours-ci en RDC ont causé malheur. Des pertes en vies humaines aux barricades des grandes routes sont les principaux dégâts. À Bukavu, par exemple, d'énormes dégâts sont signalés à Mwenga, dans le groupement de Bashimwenda-Mayou, en chefferie des Basileou. Près de 650 ménages sont sans abri lors de la pluie torrentielle, accompagnée des orages, qui s'est abattue durant 3h30 dans la soirée d'hier mardi. 68 maisons ont été détruites totalement et plusieurs dizaines d'autres ont été touchées partiellement. 4 églises et 3 écoles, dont l'épée Boutézi, ont été détruites et leurs toitures emportées. Côté pertes en vies humaines, le bilan, qui n'est que provisoire, fait état d'une cinquantaine de morts et de plusieurs disparus, selon le vice-président président de la société civile de Kalehe, dans différents villages du groupement de Mbinga Nord où ces pluies se sont abattues. À Kinshasa, l'avenue des Huileries n'a pas échappé aux dégâts. Pendant plusieurs heures dans la matinée de ce mardi, les eaux ont envahi la chaussée, le marché situé sur cette avenue et les rues de la commune de Lingwala. Là où ça inquiète, c'est le quartier Kojelos, non loin de l'université de Kinshasa, où plus d'une centaine de maisons sont menacées d'écroulement, comme l'explique cet habitant joint par téléphone.
Il manque d'entretien de caniveaux. Les hommes maintenant cherchent par où entrer, disons, dans les parcelles des occupants de Kojelos et continuent maintenant à faire monter l'érosion qui s'était déjà annoncée. Il y avait 3 types d'érosion, dont l'une est très dangereuse qui risque d'emporter même les quartiers. Il y a eu mort d'hommes qui passaient à cause de pluie.
Face à toutes ces catastrophes, plusieurs observateurs affirment que cette situation remet à la surface la question de l'urbanisation des villes en RDC.
Merci Berry Luchak. Selon les derniers bilans fournis par le gouverneur Marcelin Tshishambo, gouverneur de la province du Sud Kivu, plus de 100 personnes sont rapportées disparues et plus de 700 maisons détruites, en plus de cette cinquantaine de morts comptées lors de ces dégâts. Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Comment on peut expliquer cette situation? Est-ce que c'est un problème d'urbanisation?
C'est un problème d'irresponsabilité, pas d'urbanisation. Est-ce qu'on peut se poser la question, si nous avons un ministre de l'urbanisme habitant dans ce pays, au lieu qu'il se concentre à tout simplement prélever les taxes liées à l'urbanisme, lorsque on demande les autorisations de bâtir ainsi de suite, on devrait s'occuper aujourd'hui, pour des villes construites depuis plus de 50 ans, on devrait s'occuper à savoir où il y a les caniveaux, les canalisations d'eau, ainsi de suite. Et j'ai vu dans un pays de l'Amérique latine, dans une ville où il y a eu mort d'homme, un maire a rendu l'établi. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. L'avenue, par exemple, des Huileries, ça a été pris en charge par le gouvernement provincial. Mais aujourd'hui, tous les dégâts qui se posent sur l'avenue des Huileries, ça n'intéresse personne et personne n'est responsable de ces dégâts. Il y a eu plus de 50 morts, plus de 100 personnes disparues. Et de ces 100 personnes disparues là, je crois d'ailleurs que les bilans ont toujours été minimisés. Je crois que d'ailleurs c'est au-delà. Pas encore de deuil national et pas de responsabilité par personne qui puisse dire que, écoutez, je n'ai pas été en mesure d'assurer la sécurité des personnes, d'anticiper ces catastrophes. Personne, et on va nous dire que non, révolution de la modernité. Révolution de la modernité avec toutes ces pertes en vie humaine. Vous êtes dirigeant des gens. Quand vous dites dirigeant, vous gouvernez, on gouverne pourquoi Mulumba Tingasha comme Kadoningo et Kapalaingo. M'ont appris que l'objet ou la mission du pouvoir politique, c'est d'offrir le bonheur aux autres.
Tous, nous ne pouvons pas être des gouverneurs de la ville. Tous, nous ne pouvons pas être des gouverneurs du Sud Kivu. Mais s'il y a un gouverneur là-bas, je crois qu'on devrait anticiper avec la météo telle que ça a été annoncé, prendre les dispositions pour faire éviter à ces gens-là toutes ces catastrophes. Non, on ne prend pas les dispositions anticipatives.
Est-ce que la population aussi n'est pas en partie responsable de ce qui lui arrive, mais par exemple, par ces constructions anarchiques?
Mais qui donne l'autorisation à ces populations? Qui peut construire dans cette ville de Kinshasa une maison sans avoir obtenu l'autorisation du chef du quartier, du bourgmestre, du chef du cadastre, du chef de division du cadastre ou du conservateur des titres immobiliers? Tous, quand vous allez partir au quartier non loin du campus de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que tous détiennent leurs documents parcellaires. Ils sont en ordre, ils payent l'impôt foncier imposé par Kimbuta. Mais tous en ordre. Et même là, où, si nous allions à Calais, vous allez vous rendre compte que tous sont en ordre. C'est en cela que, dans les responsabilités en tant que chef du quartier, en tant que bourgmestre, en tant que gouverneur, en tant que maire d'une ville, on doit prévenir de la manière dont les maisons sont construites pour éviter ces catastrophes.
Diana Gikoupa, l'éditeur du journal La Colombe, quotidien qui paraît à Kinshasa. Vous avez suivi Joël Kadé qui encombre la faute au gouvernement congolais. Il parle de l'irresponsabilité des autorités.
Bon, écoutez, les jours où il sera dit que ces gens-là, vous avez entendu, qui ont leurs documents parcellaires, qui sont construits sur des montagnes, qui ont construit sur des vallées, partout là, les jours où le gouvernement va se réveiller, même si cet État, le gouverneur de la ville dit, on va raser. Le premier avocat, ça sera Kadé, pour dire non, ces gens-là ont leurs documents, il fallait les laisser. Mais quand on les laisse, il y a des intempéries, il y a des catastrophes comme ça. Non, c'est l'irresponsabilité. Moi, je pense que nous devons continuer à réfléchir. À Kinshasa, beaucoup de gens ont construit sur des endroits où on ne pouvait pas construire. Les gens ont occupé anarchiquement des maisons. Il y a eu un moment...
Mais l'État laisse faire.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a même un moment, il y avait absence de l'État dans ce pays. Ce n'est pas pour rien, pour dire que depuis 2006, on dit qu'il faut reconstruction de l'État. Le discours est là. On doit rétablir l'autorité de l'État. Ce n'est pas un mauvais. Parce qu'il y a eu un moment, chacun était chef de lui. Vous allez voir quelqu'un, il construit quelque part, on lui dit non, monsieur Kitab dit non, on me dérange parce que je suis de tel parti, pour dire je suis de telle tendance, pourquoi on me demande de partir? Vous vous souviendrez, la maison d'une consoeur sur les rails qu'on avait fait partir, ça a fait le problème parce qu'elle était de telle politique qu'on était en train de détruire sa maison. Bon, le jour où le trait va rentrer là-dedans, on dit l'irresponsabilité du gouvernement. Donc c'est pour dire que nous avons des vrais problèmes de base. La modernité, c'est une réalité. Imaginez sur l'avenue, j'ai vu ce qui est passé sur l'avenue des Tuileries. Mais si c'était la situation d'avant, mais ça aurait été beaucoup plus grave. La modernité est là. C'est pourquoi les dégâts à Kinshasa ont été un peu atténués. Donc, vous ne devez pas...
Mais avec l'eau, avec les inondations qu'on voit sur les avenues de Kinshasa après les pluies.
Le problème qu'il y a maintenant, allez voir maintenant dans les caniveaux ce qu'il y a. Vous l'avez dit, allez voir dans les canaux, allez voir dans la rivière Gombe, ce qu'il y a. Parce que généralement, c'est cette rivière-là, quand elle déborde, elle inonde tous les quartiers là-haut. Mais allez voir, on a transformé
les caniveaux en
poubelles, partout. Moi, j'habite non loin d'un grand caniveau. Allez voir tout ce qu'il y a là-bas, tout ce qu'il y a comme bouteille, c'est là qu'on jette. Et là aussi, je pense que la population doit être responsable, doit savoir que sa sécurité dépend d'elle-même. Et pas seulement chaque dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit problème, c'est l'irresponsabilité. Et tant qu'on irresponsabilisera le gouvernement, on dira que c'est le gouvernement responsable, on va responsabiliser le gouvernement, on irresponsabilise la population. La population doit pouvoir être responsable, Kadé doit pouvoir être responsable de balayer devant sa maison, de dire à ses enfants, n'allez pas jeter. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? On voit dans les médias ici, Kalunga, ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse en plus?
Merci, Diala Gikoupa, Dimanche Kamate. Vous intervenez depuis Beni, au Nord Kivu. Est-ce que c'est la même situation aussi à Beni? Les inondations, oui. Après les pluies?
Et je le conseille. Vous savez, ce que les gens sont en train de vivre dans cette partie du pays, c'est presque la même chose que ce que nous vivons ici. Parce que quand on essaie de voir est-ce que les autorités sont-elles en train de s'occuper de leur mission? Parce que pour lutter contre de telles réalités, même si l'on dit c'est une intempérie, ce n'est pas l'homme qui a prévu ça, mais les autorités doivent d'abord mettre en place un plan urbanistique qui doit être réalisé par un service crédible et compétent. Et ce plan, voulait dire donc, devra tenir compte ou être défini par zonage approprié. Parce qu'il y a des gens qui veulent construire dans des endroits marécagés, alors que ces endroits méritent pour l'élevage des poissons. Et donc, ce n'est pas normal. Comment peut-on aller construire dans un endroit où il faut élever les poissons? Comment peut-on aller installer les équipements récréatifs dans un endroit marécagé? Ce n'est pas normal. Et tout cela prouve en suffisance que nos services ne sont pas en train de s'occuper de leur mission convenablement. Imaginez-vous, chers confrères, par exemple, une zone marécageuse qui abrite les équipements récréatifs et même des habitants. Ce n'est pas normal. Et la population se plonge dans une telle situation parce qu'elle se pose la question, où est-ce que nous pouvons vivre? Même si nous ne voulons
mais
pas rester
la responsabilité n'est pas partagée.
Dans l'année, je crois que les autorités doivent contrôler aussi la réalisation du plan urbanistique d'extension de la ville, parce qu'on fait déloger quelqu'un ici, mais qu'on puisse quand même proposer des emplois d'accueil où les gens qui ont été délogés peuvent encore aller se réinstaller.
Merci Dimanche Kamate Joël Kadedanga. La responsabilité finalement n'est-elle pas partagée?
Je suis le choix de la période Boulaya 2000. Vous savez, à cette époque-là, tous les bourgmestres n'étaient pas dans leur bureau. Kasseba Makongopé à son âme avait invité tous les bourgmestres, tous les chefs de quartier à être dans le... Il y avait des poubelles partout. Et vous verrez aujourd'hui, un Louchois s'est comporté, même ici à Kinshasa, il ne peut pas jeter son papier n'importe où. Et cette impulsion doit venir du gouvernement, cette impulsion doit venir de la commune, du quartier, doit venir de la ville. Il faudrait que cela vienne. Et le pouvoir, pourquoi j'ai dit que la responsabilité est uniquement aux responsables? Parce que les dirigeants ont la force de coercition. Ils ont la police pour ça. Ils n'ont pas seulement la police pour arrêter les motos la nuit. Ils n'ont pas seulement la police pour tracasser les pauvres gens qui cherchent comment vendre le long de la route. Ils ont la responsabilité de traquer toute personne qui y a de la saleté devant sa parcelle. Alors, le gouvernement a cette responsabilité-là, qu'on ne s'élore pas, qu'on ne puisse pas dire que... Et puis... Ça montre également, madame, que nous n'avons pas la politique d'urbanisation chez nous. Vous verrez que tous les quartiers où on a construit, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui va à
merci,
la cité
d'Ouattis, hein.
Ce n'est pas tout le monde.
Merci Joël Kadedanga. Bien, n'a pas de politique d'urbanisation en RDC.
Oui, la politique d'urbanisation, je sais que, je me souviens qu'à l'époque du gouvernement Mouzé, il était question, par exemple, que d'aller construire des maisons en passant. On compte les gens, par exemple, dans la commune de Kinshasa, et on va leur construire des maisons en passant. Et puis, ils vont raser tous les quartiers. À Barumbu, on rase. Cette politique a existé. Le ministre Kaloume, qui était à la reconstruction, est encore là. Il n'y a pas longtemps, pendant 1+4, j'ai vu le vice-président Hérodia, qui était à la reconstruction, avait fait venir un urbaniste belge qui a fait le plan pour que...
Mais il n'y a pas eu de suivi après.
C'est-à-dire, il faut qu'il y ait maintenant des applications de tous les peuples. On est passé par beaucoup d'étapes, mais ce sont des histoires qui arrivent avec tout ce qu'on construit comme maison à gauche, à droite, une nouvelle cité. Je crois que ça arrivera.
Merci, cher confrère, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Béli Louchaka et Alain Hung qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. La technique était assurée par Jean-Claude Diala. Au micro, Kéline Couté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon week-end chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.